Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Paulo Breitner, avec Johan Crochet, avec Fred Armel et Julien Laurence. Toujours 1-0, hein, mon cher Johan, pour l'Inter sur la pelouse du Milan. On vient d'entrer dans le dernier quart d'heure de la première période. On en parlera tout à l'heure. Je rappelle que l'Inter, en cas de victoire, sera championne d'Italie. L'Allemagne, Paulo, le Borussia Dortmund, pensait créer l'événement ce week-end. Devenir enfin le premier à battre le Bayer Leverkusen. Puis à la 98e minute, Josep Stanisic a surgi. Et égalisé. 45e match sans défaite consécutif. Toutes compétitions confondues. Borum reste la dernière équipe à avoir battu le Bayern. C'était lors du dernier match de Bundesliga la saison dernière, une autre époque. Et Paulo, donc encore une fois, le Bayern évite la défaite au bout d'un match. Qu'est-ce que ça raconte, cette équipe? Raconte-moi un peu là.
Ce qu'on dit en Allemagne, très clairement, en fait, on commence à en rigoler. Mais parce que ça devient je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça très au sérieux de ne pas être battu, etc., et que ça peut être historique, blablabla. Bon, je rappelle que Leverkusen est en Europa League, c'était pas en Ligue des Champions, hein, comparé à la Juve de l'époque, hein. Donc ce record, ok, oui, c'est très beau tout ce que tu veux, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir gagné la Bundesliga pour la première fois. Moi, ce que ça raconte quand même, c'est que coach Alonso a réussi à faire passer à ce club plus que cette équipe le refus de la défaite. Mais là où je suis un peu colère, c'est que il fait tout pour perdre quand même. Parce que la compo qu'il met contre West Ham, je pense que c'est pas Julien qui me contradira, la première mi-temps, c'est la pire mi-temps de la saison et c'est vraiment insupportable à regarder. Mais il nous fait une chose qu'il a souvent fait en Bundesliga lorsque son équipe est en difficulté, c'est qu'il change à la mi-temps, il modifie et t'as une deuxième équipe qui arrive. Là, c'est pas pareil, il nous fait autre chose, il trouve le moyen de nous mettre à 11 de départ parce qu'il a fait, c'est sa grande mode en ce moment du turnover, d'ailleurs il en fait peut-être un peu trop. Il a commencé l'équipe sans attaquant. Donc Boniface et Schick étaient sur le banc. Tu trouves ça bizarre, moi, le fait que Schick soit titulaire à la place de Boniface, quand tu connais la densité et le physique des équipes anglaises, ça m'a un peu perturbé. Donc voilà. Et là, il fait ça. Et puis il arrive à dominer la rencontre. Et puis finalement, ça veut pas. Et à la 81e minute, il y a Füllkrug qui marque, inspiré peut-être par son but contre l'Atlético, qui met le 1-0. Et on se dit, allez, c'est fini. Et même lui, le coach, il y croyait plus. Et en fait, à 98e minute, il y a sur un corner, ça arrive, sur un centre, pardon, ça arrive. Et il égalise à la 98e minute. Et donc ça continue, mais on commence à en rigoler, si tu veux, en Allemagne, parce que on a le sentiment que tout leur réussit et que c'est un petit peu délicat de ne pas perdre. Mais moi, honnêtement, quand je regarde ce qu'il fait en ce moment dans ses compos, quand je regarde la façon de jouer de Leverkusen, etc., faudrait peut-être pas pousser le bouchon
oui,
trop loin parce que
il se laisse un peu griser, quoi. Non, aussi pas
son
succès, quoi.
J'ai le sentiment qu'il y a un petit truc comme ça. Maintenant, encore une fois, 45 matchs sans défaite extraordinaire, 28 buts marqués. Je crois que c'est un record, toutes compétitions confondues, lors des 10 dernières minutes des rencontres. Alors, il y a les arrêts de jeu, mais il y a aussi à partir de la 80e minute. C'est 28 buts, toutes compétitions confondues. C'est quand même assez un ratio assez important. Donc, c'est une équipe qui ne lâche pas, mais j'aimerais bien qu'on revienne à un petit classicisme un petit peu quand même dans le 11 de départ, parce que il y a un moment, ça va faire boum. Il ne faudrait pas que ça tombe contre la Roma, bien entendu.
14 buts dans le temps additionnel. Je voyais ça aussi. 9 points pris dans les dernières secondes des matchs.
Le titre, il est ça. L'écart, là, il y a 14 points d'écart avec le Bayern. L'écart, il est là. Hein. C'est pas compliqué. Là, avant, il y a 2-3 journées, j'ai pas fait le calcul. Il y en avait que 6. En fait, si on enlevait les arrêts de jeu, mais c'est assez impressionnant de. Et puis parce qu'ils vont le gagner là, la victoire contre Leipzig, le match contre Hoffenheim, même l'Europa League, hein, contre Karabag et tout ça, hein, qui était déjà un avertissement sans frais à l'aller et au retour. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, et c'est pour ça que plus que le mot Unschlagbar, imbattable, on parle des imprévisibles, parce que tout le monde peut marquer au milieu de terrain, sur les côtés, Frimpong qui jouait d'ailleurs quasiment en deuxième attaquant avec Telas à Dortmund, mais tu en rigoles. Moi, quand j'ai vu l'égalisation, honnêtement, j'ai rigolé sur mon canapé, quoi. Non, mais parce que je pensais vraiment que Dortmund allait le faire. Mais c'est fou. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui peut leur arriver? Enfin, Julien pour en parler. La première mi-temps de Leverkusen contre West Ham, c'est dégueulasse, quoi. C'est insupportable.
C'est vrai, c'est pas génial, ouais.
Mais le 2-0. De partout à l'arrivée. Dans l'histoire, je voyais ça, seul un club anglais, Preston North End, premier champion anglais en 1888-1889, a réussi à remporter le championnat et la coupe sans jamais perdre un match. Voilà.
Donc voilà. Arsenal l'a fait en 2004, invincible dans le championnat en tout cas, sans perdre un seul match du championnat.
Et la coupe là, tu vois, c'est ça le truc.
Ouais, mais il y avait moins d'équipes. aussi.
C'est vrai, il y avait beaucoup moins d'équipes. C'était 23 victoires, 4 nuls, hein, tout simplement.
Oui, oui. C'est ça. Ah, c'est il n'y avait pas les problèmes de calendrier à l'époque.
Pas le même problème.
Bah si, parce que les mecs, ils devaient bosser à côté.
Polo, juste un mot sur Sébastien Haller. Alors certains diront que c'est anecdotique, hein, qui est quasi forfait pour la demi-finale contre le PSG.
Oui, déjà qu'il n'était pas titulaire, qu'il s'était blessé, il s'était révélé, j'ai envie de dire, à la CAN en marquant des buts.
Ça l'a pas vraiment relancé en réalité.
Ça l'a pas vraiment relancé parce qu'il s'est blessé à nouveau et donc là c'est saison finie. Donc on aura Füllkrug, voire Moukoko qui joue quasiment pas, tout ça est bien pauvre pour le Borussia Dortmund. Mais comme on a dit que peut-être les Allemands allaient se qualifier via la cinquième place en Bundesliga, ça se trouve Dortmund se retrouve en Ligue des Champions l'année prochaine.
On parlera abondamment de ce match. Un demi-finale aller de Ligue des Champions la semaine prochaine avec toi, mon cher Polo. Gérone avance bien. Gérone en a passé 4 à Cadix ce week-end. Gérone sort en Coupe d'Europe, ça c'est sûr. Mais laquelle ça c'est le suspense de la fin de saison, Fredo.
Rappelez-vous,
ça a tenu. On a cru que ça allait craquer dans les grandes largeurs.
C'est ça le truc. À ce micro, on parlait notamment après la défaite contre le Real, qui était la fin des espoirs de Liga pour les joueurs de la Catalogne. Parce que quand tu as un objectif comme ça, un objectif complètement fou en disant on va peut-être le faire, ça porte une équipe. Ça porte. Quand tu crois que tu vas pouvoir être champion d'Espagne, que ton coach te dit à un moment dans 10 matchs on fait le bilan et je dirais si on peut y croire, naturellement il y a quelque chose d'indéfinissable qui porte les joueurs. Donc quand cet objectif-là n'est plus possible, et on l'a senti, ça a été dur. Il y a eu plusieurs défaites un peu difficiles. Et là, certes, c'est contre Cadix, mais la première période de Gérone, elle est magnifique. Deuxième période, pas terrible, mais la première période est magnifique. Et cette équipe-là, aujourd'hui, d'un point de vue purement comptable, est au minimum, même si elle perd tous ses matchs, elle est au minimum en Ligue Europa. C'est exceptionnel. C'est une équipe qui, en début de saison, visait uniquement le maintien. Donc c'est merveilleux. Il reste 6 matchs. Et cette équipe de Gérone a simplement besoin de 9 points. Donc 6 matchs, 3 fois 6, 18. De 9 points, c'est-à-dire la moitié des points, pour être sûr, sans dépendre des autres, d'être en Ligue des Champions la saison prochaine.
Peut-être que moins que 9 points suffiront, ils ont 10 points d'avance.
Mais le truc, c'est que même si les poursuivants gagnent tout ce qu'il faut, ils sont... Donc ça veut dire qu'on peut, on est quasiment sûr du côté de Gérone d'être en Ligue des Champions. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux pour cette équipe d'aller en Ligue des Champions ou en Ligue Europa ? Ils vont pas calculer, hein. Ils vont pas calculer. Mais est-ce que c'est pas finalement un fossé trop grand quand t'es Gérone d'aller en Ligue des Champions? Les investissements qu'il va falloir faire et tout ça.
Mais après, ils se battent pour Brest chez nous, tu sais.
Mais voilà, ils prennent le truc. Puis après, il y a la question du stade, l'homologation du stade, etc. Tout ça va poser en Europe, quoi. Même en tout ça, en Ligue des Champions, en Europa League, il y a des choses qui vont devoir évoluer. Mais il faut applaudir Michel. La question aussi, on s'est posé la question sur Xabi Alonso. Je veux dire, Michel est quand même l'entraîneur à la mode. L'entraîneur à la mode du football espagnol. Franchement, la Liga n'a pas été terrible cette saison et la bouffée d'air frais a été le Gérone de Michel. Donc, il faut applaudir cette équipe, il faut applaudir le... Et c'est vrai, ce week-end, je regardais de nouveau l'effectif, quoi. C'est un peu fait de briques et de broc, finalement. Voilà, et c'est... Quand tu vois Eric Garcia, dont tu ne voulais plus au Barça, il fait une super saison. Quand tu vois Savinho... prêté par Citigroup de 3, etc. Il a réussi. Et puis, alors aussi, il y a un titre qui est un titre individuel, mais qui compte énormément en Espagne, c'est le Pichichi. Dovbik est actuellement, avec 18 buts, leader du Pichichi.
Avec combien ?
18 buts.
C'est ce que je préfère.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
T'as dit 18 autre chose.
Ouais. T'as remplacé la voyelle.
18. D'accord. J'ai dit 18 bottes. Non, 18 bottes, pardon.
Ah non, t'as pas dit ça non plus.
Ah non, j'avais dit ça.
T'as pas dit ça non plus.
Ah non, mais c'est bon. Je pense que
vas-y, Fredo, pour les gens aggravés.
Et Bellingham qui a marqué aussi, il est 17e. Donc finalement, il y a aussi ce petit championnat entre ces deux joueurs. L'un des deux va être Pichichi. Et en Espagne, c'est hyper important, Pichichi, quand même. C'est comme Capo Cagnolet en Italie, quoi. Ça marque. Donc, moi, je trouve que c'est une saison absolument merveilleuse. Après, la question, c'est est-ce que le fait, et là, je n'ai pas la réponse, est-ce que le fait d'appartenir à Citigroup va permettre à cette équipe de ne pas être pillée ? Voilà, on ne sait pas. parce que
il va perdre Savinho déjà, qui va aller à City.
C'est ça.
Voilà, mais c'est vrai. Voilà, donc
début, c'est non, mais t'as raison. Pareil pour Michel, pareil pour Dovbyk.
Tu vois, Dovbyk, hein, ils vont se faire attaquer sur tellement
de joueurs. T'imagines, après tu te dis bon, je reste un an à Gérone, je me montre encore plus parce que je me montre en Ligue des Champions.
Ouais, mais tu risques de souffrir en Ligue des Champions.
Oui, après, c'est sûr.
T'as le temps de t'illustrer, t'as 8 matchs à jouer à minima. Donc voilà.
On y reviendra, on aura des nouvelles d'ici la fin de la saison parce que mais c'est quand même une aventure absolument merveilleuse. Donc bravo à Michel. Moi je c'est quelqu'un que j'ai vu jouer au Rayo, hein. Lui qu'on appelait Michel Primello de Vallecas, c'est vraiment la belle aventure et ce qui a fait un peu c'est vraiment la très grosse cerise sur un gâteau qui était bien mince en Liga cette saison.
Bon, j'ajoute également le latéral Miguel Gutiérrez, hein, 22 ans, qui
il a été formé au Real. C'était un très bon, il avait été lancé par Zizou et c'est un bon joueur aussi. Non, c'est une super équipe, vraiment bravo.
Voilà, donc 18 buts pour Dovbyk, ça fait beaucoup, 18. Hein. David,
c'est longtemps qu'on n'a pas eu un Pichichi qui était ni du Barça ni du Real. Hein,
ouais. Mais oui, non, mais ça, c'est génial. Enfin, franchement, c'est. Alors après, ça paraît pas beaucoup par rapport aux chiffres qu'on avait de Cristiano et de Messi, mais on est dans une nouvelle époque.
Beaucoup pour un seul homme, je voulais dire en tout cas, 18. C'est l'heure de la troisième minute de la soirée. Elle est italienne. On envoie la musique, Polo. Bah là, on y est là.
Eh oui. Tarentelle italienne et même napolitaine.
Magnifique.
Évidemment, puisqu'on va aller du côté de Naples, musique bien typique du sud de l'Italie, notamment de Naples, mais aussi dans les Pouilles. Et bien, quand on parle de Naples et des Pouilles, on pense tout de suite à un pont. Le pont, c'est Aurelio De Laurentiis. Évidemment, propriétaire du Napoli, propriétaire de Bari également, club en série B. Et comme c'est la crise à Naples, ils se sont dit bon, on va faire la crise à Paris aussi, comme ça on aura nos deux clubs en crise et ça sera pas plus mal. Défaite à Empoli, cataclysmique du Napoli. Un De Laurentiis à Aurelio furieux vraiment contre ses joueurs qui voulait les emmener en mise au vert punitive après la rencontre pendant une semaine avant le match du week-end contre la Roma. Finalement, ils ont décidé que ce serait peut-être contre-productif. De toute façon, on a aussi le sentiment du côté de Naples qu'il y a des joueurs qui ont clairement lâché et que maintenant ils savent que la Ligue des Champions ça paraît compliqué et donc ils sont plus dans leur délire de gestion de cas personnel avant l'été que collectif. Et puis à Bari, l'année dernière, on n'était pas très très loin, on était même tout proche de monter en Serie A, et cette saison on est tout proche de descendre en Serie C. Et il y a vraiment grosse contestation des De Laurentiis depuis plusieurs semaines à Bari. Les supporters avaient commencé à faire grève des encouragements. Là, ils ont dit bon, pour les 5 derniers matchs de la saison, on va tous se remettre la tête à l'endroit et vous encourager pour éviter de descendre. Mais voilà, du côté des De Laurentiis, l'été risque d'amener pas mal de révolutions à Naples, à Bari, et quand on sait qu'ils vont devoir vendre sans doute Bari dans les prochaines années parce qu'il y a une loi qui va bientôt arriver en Italie empêchant d'avoir deux clubs pour le même propriétaire, et on se dit que peut-être que Bari va devoir changer plus rapidement de propriétaire.
Voilà pour la minute de Johan. Toujours 1-0 à l'approche de la mi-temps pour l'Inter.
C'est un peu n'importe quoi là, la fin de mi-temps. Pourquoi ? Ça part dans tous les sens, il y a des erreurs défensives grotesques, des glissades, des relances dans l'axe. Bon, c'est un derby très très ouvert et pour ceux qui aiment les statistiques, à la mi-temps, l'Inter sera pas loin de 2 expected goals, donc ça vous dit un petit peu la performance défensive de l'AC Milan.
Bon, et puis là on me dit dernier pichichi en Espagne d'un joueur qui n'est
évolué
ni au Real, ni au Barça. Vas-y, il est uruguayen.
Moi je l'ai.
Il est uruguayen, messieurs.
Luis Suarez.
Non. Il jouait à l'Atlético de Madrid, Forlán, 2008-2009. Voilà. Bon, on parle pas de n'importe qui non plus. Et pas de n'importe quel club non plus. Voilà. Pause. Dans un instant, on revient et on parle encore une fois de la victoire de l'excellent travail réalisé par Thiago Motta à Bologne, hein, qui a fait un pas vers la Ligue des Champions. Quatrième de Serie A. On en parle avec Johan, bien sûr. Et vous, également au 32-16, vous nous appelez. Le cœur des auditeurs approche aussi. Vous appelez Max au standard. Vos questions à Fred, Polo, Julien et Johan. Tout sujet, tout club. C'est ouvert comme tous les lundis soirs. À tout de suite sur RMC.